Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui s'est donné les moyens de croire en elle, de se former, de se construire pour servir un secteur et bien sûr servir son pays. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Hind Barada, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Hind?
Ça va très très bien. Je suis vraiment honorée d'être avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors Hind, qu'est-ce qu'on dit là? Félicitations pour le poste de vice-présidente générale de la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring.
Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Un poste qui m'honore, une mission assez challengeante et engageante, inshallah, qui s'inscrit dans la vision royale et le Maroc Digital 2030. Donc, c'est vraiment une très belle opportunité pour qu'on puisse apporter le mieux de ce qu'on peut faire dans le secteur de l'IT et de l'offshore.
Ok, alors on va essayer de comprendre qui est la personne, la femme, l'être humain derrière ce parcours, comme on dit, who's who. Alors Hind Barada, justement, ce qui est beau aussi dans votre parcours, c'est que vous avez, on va dire, pas fait d'études en IT propre, à proprement parler.
Écoutez, non, moi je suis juriste de formation.
C'est ça, exactement.
Je suis juriste de formation et accidentellement, je suis tombée dans le management, je vais quand même pas vous le cacher. Je suis arrivée, j'ai fait une formation de management général et là où je suis tombée dans le domaine de l'IT, qui est, pour moi, il a été très fluide à absorber et à maîtriser. Parce que ça reste quand même autour d'une technologie et des choses qu'on vit. On les vit avec nos enfants, avec même nous, nos applications, nos téléphones et tout ça. Donc c'est un domaine qui,
on baigne
qui
dedans.
Pour moi, a été, voilà, on baigne dedans et ça m'a facilité la tâche. Donc, je parle de ma formation. Après, je me suis évidemment bien boostée avec des certificats dans les domaines de l'IT pour quand même avoir une légitimité dans le domaine.
Ah, alors là, j'adore le mot que vous utilisez, légitimité. Et justement, vous me tendez une perche parce que c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça a pu être parfois difficile d'avoir cette légitimité ne venant pas d'un background scientifique, technologique. Et surtout que c'est un monde très, très masculin, je pense, celui de l'IT. Pas seulement au Maroc, mais à l'international.
Tout à fait. Honnêtement, au Maroc, alhamdoulilah, nous on ne vit pas cette discrimination entre hommes et femmes dans le domaine de l'IT. Mais quand je suis arrivée dans le domaine de l'IT, je vais vous donner des chiffres très clairs. Quand je suis arrivée, dans mes équipes, j'avais 10% de femmes et 90% d'hommes dans le domaine. Aujourd'hui, nous sommes à 50-50. Cela dit, que la femme ne se limite pas. Après, pour répondre à votre question, est-ce que c'était une barrière? Oui. La légitimité, quand on ne comprend pas quelque chose et quand on ne la maîtrise pas, on va être incapable
de challenger,
vraiment incapable de la challenger et de la pousser. On peut la maintenir, mais pour la pousser et faire de la création de valeur, il faut absolument une légitimité. Et la légitimité, elle vient par la connaissance et la maîtrise. Et ça, il faut bien accompagner ce tremplin pour pouvoir avoir cette légitimité et la maîtrise. Cela donne de la, comment je vais vous le décrire, cela donne vraiment de la valeur et même face à des marchés qui ne connaissent pas le Maroc aujourd'hui, parce que nous on exporte la connaissance. Vraiment, on exporte la connaissance et même en interne, quand on veut adresser des sujets, les JBED, qui sont réellement nouveaux. Là, aujourd'hui, on parle de l'IA. Si on ne maîtrise pas ce que ça veut dire, maîtriser les risques d'abord, on ne peut pas parler de sujets si on ne maîtrise pas. Donc, il faut vraiment oser et aller de l'avant.
Ne venant pas de ce background, mais vous êtes quand même arrivé à ce poste-là. Et ça, c'est la force du travail et de l'engagement.
Tout à fait, tout à fait. Parce que moi avant que je sois dans la fédération, je suis quand même entrepreneuse dans le domaine de l'IT. Mmh. J'avais adhéré à la fédération. La fédération, c'est le porte-parole du secteur. Il y a beaucoup de choses à faire. La force, c'est une fédération d'ailleurs, ça vient de là. C'est fédérer toutes les entreprises qui sont autour de la technologie de l'information pour pouvoir avancer ensemble. On ne peut pas chacun travailler dans son coin. Et je peux dire, depuis 4-5 ans, j'ai adhéré à la fédération, j'ai été membre actif, j'ai été dans le comité dans le conseil d'administration, pardon, et je vois et avec mes confrères qu'il est important de porter le chapeau et oser vers des choses nouvelles et oser changer les choses, oser faire les choses pas différemment mais avec une vitesse supérieure. Et c'est ce qui m'a poussée à ma position d'aujourd'hui aux côtés de Cyril Sani qui est Monsieur le Président, et avec l'équipe permanente que je remercie infiniment, qui travaille très fortement dans le secteur. Inch'Allah, on sera vraiment à la hauteur pour accompagner cette stratégie Maroc 2030.
Alors, dans le cadre de cette stratégie, et dans le cadre aussi de la vision de la politique de la fédération, quelle est la place de la femme dans les projets à venir, les femmes dans l'IT?
Alors, la femme dans l'IT, c'est un acteur majeur aujourd'hui parce que la femme, elle est capable de fédérer. C'est la femme qui ne travaille pas toute seule. C'est une femme qui peut travailler dans des équipes, qui est capable d'apprendre très vite, qui est capable de prendre des décisions très vite parce qu'avant qu'elle soit une femme active dehors, c'est une femme active à l'intérieur. Alors, c'est une maman. Donc, elle apprend le leadership naturellement chez elle avant qu'elle le fasse à l'extérieur. Donc, la femme, elle est réellement au cœur de la stratégie et honnêtement, dans tous les secteurs, hein, pas que dans l'IT, mais particulièrement dans l'IT, elle joue un rôle très important. Et nous, d'ailleurs, quand on voit, il y en a plusieurs des chefs d'entreprise femmes aujourd'hui dans plusieurs domaines très touchy, notamment le pétrolier, on parle de l'énergie et particulièrement l'IT, où la femme, elle sait sereinement faire transformer les choses de façon, on va dire, plus fluide en créant de la valeur, avec un leadership, de haut niveau. Je ne dénigre pas, absolument pas. On a été quand même éduqués par le management masculin, je ne dénigre pas la capacité de l'homme dans tout ça, au contraire. Mais un équilibre homme-femme, il est primordial, il est important. Que chacun puisse apporter sa plus-value et que chacun puisse et qu'on puisse cohabiter ensemble de façon à ce qu'on apporte de la valeur. C'est ça le but. Mmh.
Alors, vous avez évoqué un point qui est extrêmement intéressant et de manière très subtile, vous l'avez fait en fait. Vous avez dit on a été éduqué par le management masculin. C'est que pendant très longtemps, le modèle de management qui existe, et notamment dans ce métier-là que vous exercez, c'est celui de l'homme en fait. Aujourd'hui, est-ce que les femmes, est-ce que par exemple vous, en tant que femme, vous pensez que vous avez créé votre propre modèle de management qui peut être justement observé, je ne vais pas dire dupliqué parce que ce n'est pas l'objectif, mais duquel certaines femmes, jeunes femmes, peuvent s'inspirer?
Absolument, absolument. Et ben, je parle de moi particulièrement et je vais parler de mon expérience. Moi, dans ma vie antérieure, j'avais mon patron que je respecte beaucoup qui est parti à la retraite et avec lequel on a toujours été en conflit en divergence d'idées sur certaines décisions importantes. Mais avant de partir, il m'a dit: Inde, tu prends le relais, tu vas prendre la suite parce que c'est finalement comme ça que le monde va et tu avais raison sur pas mal de points. Et ça m'a fait énormément plaisir et c'est ce qui m'a poussée à aller de l'avant. Et juste une autre précision, moi, ma seconde, mon adjointe, c'est une femme aussi. Et je vois ce changement. C'est pas le changement dans les décisions stratégiques, parce qu'on est tous dans la même voie. Mais le changement, c'est dans le quotidien, dans la manière dont on gère les décisions, dans la manière où on voit l'avenir. Je peux dire que moi particulièrement, ou même les femmes que je connais aujourd'hui, les entrepreneuses, nous avons une capacité de voir plus loin ce qui va venir. Et non seulement ce qui va arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais plutôt être vraiment précurseur sur certaines décisions, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est né comme ça, c'est inné. On voit les choses arriver de loin et on s'apprête pour les accompagner d'une façon plus fluide et voire même inaperçue parfois. Et on ne se rend compte qu'après.
Qu'on a anticipé, c'est ça le truc, c'est qu'on s'en rend compte même pas en fait de cette clairvoyance.
Justement, on s'en rend compte pas, parce que tellement ça passe de façon fluide, tellement elle est préparée bien à l'avance, on s'en rend compte pas. Ouais. Quand on s'arrête un moment et on regarde le rétroviseur, là, on se rend compte de ce qu'on a fait. Là, on se rend compte de tous les changements qu'on a accompagnés. D'ailleurs, comme je vous ai dit, quand on passe à un taux, moi, je parle que de mon entreprise, quand on passe de 10% de femmes dans l'IT à 50% aujourd'hui, et je suis certaine que dans 5 ans, on va être à peut-être plus que ça. Déjà, ça, c'est un pas énorme. Déjà, on voit qu'il y a une volonté, on voit qu'il y a une connaissance. Et ce n'est pas des métiers que du back-office, c'est de vrais métiers qui apportent des produits, c'est des profils qui sortent des produits qui sont sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de la création de valeur. Donc, et ça, on ne l'a pas vu. Ce n'était pas des actions là où on dit, non, aujourd'hui, moi, je veux monter à 20, moi, je veux monter à 30. Non, ce ne sont pas des objectifs. Certes, c'est des objectifs pour quand même mettre en valeur la capacité de la femme. Mais c'est des choses qui viennent de façon très fluide, en créant de l'intérêt, en démontrant de l'intérêt aussi, en récompensant les gens, en montrant l'intérêt de oser. C'est ça le mot. Et ça, c'est ma devise. Il faut oser avancer. Il faut oser aller on a toujours pensé des choses. Non, c'est pas pour la femme. Il faut faire attention. Non, non. Il faut oser avancer. Il faut oser faire. Et quand on ose faire, on y arrive. Et la preuve, on la voit aujourd'hui. Nous avons des femmes, mashallah, au niveau de décisions stratégiques, et ça fait réellement plaisir.
Alors justement, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que ces statistiques ont évolué en faveur de la place de la femme? Qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que c'est l'écosystème qui a permis à la femme de prendre sa place, ou c'est la femme qui s'est donné l'autorisation d'être là?
Honnêtement, c'est les deux. Il y a déjà l'infrastructure académique qui s'est élargie, et ça, c'est une très bonne chose. On a vu que ça s'est élargi à grande échelle avec toutes les campagnes de sensibilisation, le kimchi ou les écoles, pour expliquer le métier. Ça a beaucoup aidé les femmes à prendre ces décisions-là. Et aussi les femmes qui sont de nature combattantes, qui ont osé et qui ont vu certaines success stories et qui ont fait qu'elles y sont allées. Donc c'est le mix des deux. Mais il faut dire aussi que l'écosystème est en faveur de cette inclusion de la femme dans les métiers complexes.
Alors, vous avez un mandat de combien d'années, Lalla Hind?
De 2 ans.
De 2 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se dise dans 2 ans, Inch'Allah?
Écoutez, dans 2 ans, Inch'Allah, honnêtement, je m'inscris dans un programme qui ne va pas s'arrêter dans 2 ans. 2 ans, pour être honnête, c'est difficile d'apporter des changements. On veut mettre des bases dans ces 2 ans. C'est des bases stratégiques, que ce soit sur la partie formation. C'est important, on va accélérer sur la partie formation et le reskilling de beaucoup de métiers, ce qui est important parce qu'aujourd'hui avec l'IA qui représente partiellement une menace sur certains métiers, il faut absolument qu'on accompagne ça, qu'on comble le vide par de la formation. Ça, là-dessus, c'est le premier sujet où on veut vraiment mettre un socle solide pour pouvoir accompagner la génération suivante. Deuxièmement, travailler sur un sujet d'inclusion globale, pas que de celui de la femme. Il y a plusieurs populations touchées. Il y a plusieurs populations touchées, notamment des personnes qui n'ont pas accès au travail pour des raisons de santé, par exemple, mais qui ont des capacités à faire, mais qui ne peuvent pas. Ceux-là aussi, il faudra les accompagner par des programmes solides avec tout l'écosystème pour qu'on puisse vraiment avoir une force de frappe pour être prêt d'ici 2030. C'est ça l'importance. Et puis, mon mandat s'arrêtera peut-être dans 2 ans, mais notre feuille de route, elle s'inscrit sur bien au-delà des 2 ans.
Absolument. C'est tourné vers l'inclusion, en fait.
Tout à fait.
Alors, vous avez dit aussi une chose qui m'a interpellée, vous avez dit pas uniquement la femme. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'on n'en fait jamais assez pour la femme. Je ne veux pas que ma question, là, ce que je vais dire, soit mal interprétée. C'est vrai qu'on n'en fait jamais assez. Il y a beaucoup de choses encore à faire pour la femme. Mais à, entre guillemets, trop faire pour la femme, on oublie d'autres populations vulnérables.
Tout à fait. Enfin, on ne les oublie pas, mais on ne les accompagne pas assez. Certaines populations vulnérables qui ont des limites dans leur trajectoire professionnelle. Et malheureusement, ce sont des personnes qui ont des capacités qui peuvent dépasser ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ouais. Moi, je vois même dans mon entreprise, j'en ai quelques-uns qui excellent. Et c'est dommage de ne pas pouvoir les aider aussi, les accompagner.
Personnes à mobilité réduite, notamment.
Tout à fait.
Il y a aussi peut-être, au-delà des personnes à mobilité réduite, c'est toutes les personnes qui ne sont pas dans les grandes villes, en fait.
C'est une autre dimension. C'est là où on va parler de la régionalisation de l'écosystème. Il y a toute l'infrastructure académique qui a beaucoup évolué. Moi, par exemple, je parle de mon entreprise. Je suis à Rabat et à Agadir. À Agadir, il y a 10 ans, je ne pouvais pas ouvrir une filiale, alors qu'il y a 4 ans, je l'ai fait parce que il y a eu des universités de mise en place, il y a vraiment eu un grand effort. Aujourd'hui, je pense que le premier travail à faire de régionalisation est d'aller encore plus loin dans cette régionalisation dans le domaine de l'éducation et de la formation. Ça, c'est important. Et c'est ce qui fait... Parce que de toutes les façons, les gens... Tout le monde veut rester dans sa ville natale. Tout le monde a envie de rester auprès de sa famille. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans Rabat, Casa, Fès, enfin, dans les grandes villes, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas un frein, pour vous dire. Aujourd'hui, ce n'est pas un frein. On recrute, subhanallah, nous avons des compétences, des personnes qui sont capables de voyager. Enfin, en général, les grandes écoles aujourd'hui ou les spécialisés sont dans les grandes villes. Donc les gens, ils se déplacent. Ce n'est pas réellement un frein.
Mais pour les filles également, pour les jeunes femmes aussi.
Si. Alors là, si. Moi, je l'ai bien constaté à Agadir. Là où j'ai 70% de salariés filles dans le domaine de l'IT, des personnes qui ont été diplômées mais qui sont restées chez elles. C'est vraiment malheureux parce que c'est une région qui n'a pas été, c'est une région touristique, mais qui n'emploie pas 100 ingénieurs dans l'informatique. C'est compliqué. Donc, aujourd'hui, pareil, c'était une volonté gouvernementale de faire de Agadir le hub informatique de l'Afrique. Et c'est ce qui nous a aidé aussi à recruter des personnes qui ont été diplômées 5-6 ans avant. Mais par contre, culturellement parlant, elles ne pouvaient pas quitter leur maison. Et là, pareil, on va revenir au rôle de la femme et son inclusion dans le marché du travail. Ça va de soi. Là où on tourne, on va toujours retrouver la femme au cœur de l'écosystème. Quel que soit le sujet qu'il est, il faut qu'on puisse l'accompagner, la sécuriser et lui donner de la confiance pour créer de la valeur. Mmh.
Donc, c'est en fait, dans ce cas-là, il faut s'adapter aux particularités régionales, c'est-à-dire que c'est au travail, aux entreprises d'aller vers ces femmes et non pas demander à ces femmes d'abandonner une carrière parce qu'elles n'ont pas où travailler, qu'elles doivent rester dans leur région.
Tout à fait. Absolument pas les freiner. Mmh. C'est notre capital, c'est le capital humain. Au contraire, il faut les encourager et régionaliser les grandes structures. Encourager dans tout l'écosystème, encourager la régionalisation, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau de l'infrastructure académique, au niveau de... Enfin, il ne faut pas que ce soit vraiment centralisé dans les grandes villes. Il faut y aller pour permettre à ces femmes compétentes d'avoir accès au marché de travail, au lieu d'abandonner leur rêve et rester chez elles. Mmh. Parce qu'on les voit déjà quand elles vont à l'école, elles se forment, c'est qu'elles ont des ambitions, elles ont un rêve à concrétiser. Il faut les aider à le faire. Et jamais, mais vraiment jamais freiner la femme, parce que honnêtement, la femme, elle n'a pas de limite. Elle ne connaît pas les limites. Elle peut aller... même si on pense qu'elle est fragile, mais pas du tout, dans le travail, pas du tout. Elle est très... elle peut être calme, elle peut gérer des situations conflictuelles d'une façon très fluide, et ça, je le vois, moi, au quotidien. Et c'est une force pour le Maroc, aujourd'hui, de pouvoir avancer, voire même devancer. Moi, je travaille avec des marchés internationaux et je vous promets que nous avons une capacité managériale humaine, féminine, meilleure de l'Occident. Mm. De loin. Donc, nous avons ce capital humain féminin et il faut en profiter, il faut l'aider.
Eh bien, Hind Barada, merci infiniment pour ce bel échange.
Merci, merci à vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.